Chapitre 21. Juna suit Saga sur la route forestière qui les éloigne de la station de métro abandonnée. Les rayons de soleil bas se faufilent entre les branches et inondent la forêt de lumière. La poussière soulevée par la roue arrière de la moto de Saga forme un nuage derrière elle. Les branches raclent les flancs de la voiture. Juna pense au message collé dans la pupille de la jeune fille. À cette nouvelle menace et à l'avertissement final s'il ne résolve pas l'énigme. Un message signé d'une nouvelle anagramme. La carte postale en noir et blanc représente un portail en fer ouvert sur un chemin de gravier ratissé qui passe devant une pierre runique et longe une morgue blanchie à la chaux. Autour s'aligne des tombes et des croix, jusqu'à une petite église au toit pentu. La photo a probablement été prise au printemps. Les arbres sont encore nus et le ciel est blanc. Dans le coin inférieur droit de l'image, quelques mots dans une écriture ancienne. Paroisse de Funbo, 1879. Encore un cimetière, pense Juna au moment où il est interrompu par un appel de groupe sur Raquel. Le gardien des bains en plein air de Salciobaden a appelé le 112. La porte d'entrée de la piscine pour hommes a été brisée et le sol est couvert de sang. Juna voit la moto de Saga faire une embardée lorsqu'ils apprennent que c'est Werner Zanden qui avait réservé le lieu pour lui tout seul. Les membres de la cellule d'enquête se connectent un à un à la discussion.
« Nous ne savons pas si c'est le sang de Werner, » modère Peter. « Ce n'est qu'une supposition, nous... »«
Mais malheureusement... » commence Juna.
« Nous ne savons rien, »
insiste Peter. « Non, mais malheureusement, la situation est exactement la même que... »«
Pourquoi il faut toujours que tu sois aussi négatif ?»
s'emporte Peter. « Calme-toi, » dit Manvir. « Que savons-nous du lieu du crime ?» demande Juna. « On ne devrait pas tarder à recevoir le rapport de la première équipe arrivée sur place. » répond Manvir.
« Mais Werner !»
soupire Peter.
« Je comprends pas. Pourquoi Werner ?»« C'est incompréhensible. »
renchérit Greta. « Juna ?» appelle Manvir. « Il est clair maintenant que la figurine en étain représente Werner. Il est plus fin et plus grand que les autres. » Et les formes gravées sur son dos n'étaient pas des nuages, mais des feuilles de chêne.
Oui, bien sûr. Acquiesce Saga. Bon sang,
murmure Peter. Dans la police suédoise, plus une personne est gradée, plus elle porte de galons de feuilles de chêne. Et le motif central des armoiries de la CEPO est une torche enflammée et quatre feuilles de chêne.
Mais ça ne colle pas à notre théorie sur les indices contenus dans les emballages.
On ne peut tout simplement pas fouiller la moitié de l'archipel, argumente Manvir.
Le seul endroit précis était la station de métro, dit Saga.
Le tueur voulait qu'on s'y rende en premier lieu, continue Juna.
Pour trouver une nouvelle carte postale à l'attention de Saga, ajoute Greta.
En tout cas, il est clair qu'on a toujours un temps de retard. La gare n'était pas le lieu de l'attaque. Mais les bains en plein air de Salciobaden, oui, dit Manvir. L'autre partie de l'article portait sur la prolifération d'algues dans l'archipel. Et,
mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas juste,
l'interrompt Peter.
Il y a tellement d'eau et des milliers d'îles, de plages et de rochers.
Je crois qu'on a raté quelque chose, dit Juna.
Salciobaden est en cinquième position sur la liste des endroits où il y a le plus de prolifération d'algues.
Affirme Greta.
Quel merdier!
Soupire Peter. Saga ralentit à l'approche de la barrière, puis tourne à droite. Juna la suit et entend le gravier crisser sous ses pneus.
Attendez, je suis en contact avec un collègue qui se trouve sur les lieux, dit Manvir.
Ici Manvir Rai de la section opérationnelle, à vous.
Jürgen Carlson, à vous.
Dites-nous ce que vous avez trouvé.
Annika et moi étions sur la pointe de terre au bout de l'île quand on a reçu l'alerte. En arrivant, on est allé vérifier toutes les zones. Putain, je sais pas quoi dire.
Il se tait. Le micro se met à grésiller, puis on entend une respiration rapide. Vous êtes toujours là ? Demande Manvir.
C'est impossible à décrire. Il n'y a pas de victime, mais du sang sur le parking. Énormément de sang à l'intérieur de l'établissement, sur le sol. En fait, il y en a partout. L'allée du restaurant ressemble à un abattoir. Il y a des traînées sur la porte, les escaliers. Putain !
Vous avez fait d'autres observations ?
Non, enfin. On a trouvé plusieurs douilles, dont une complètement blanche. J'en ai jamais vu des comme ça. Il faut faire venir les techniciens. La porte a été complètement détruite et... Ah ouais, il y a un truc que je comprends pas. Les moulures et les cadres des portes ont été sciés. Il y a de la limaille et des copeaux de bois par terre.
Avez-vous trouvé quelque chose qui pourrait permettre d'identifier la victime ?
Un portable ensanglanté, mais on n'y a pas touché.
C'est bien.
J'appelle Werner, dit Greta.
Bouclez la zone et attendez les techniciens, ordonne Manvir à son collègue.
Attendez, Annika arrive. Elle veut dire quelque chose.
Une voix agitée se fait entendre à l'arrière-plan.
Le portable qui se trouve par terre est en train de sonner, dit Jürgen.
N'y touchez pas et attendez sur place. La forêt s'ouvre devant Saga sur des bâtiments bas, une route et un viaduc. Lorsque l'agent de Salzjöbaden coupe la communication, un silence pesant s'établit.
C'était quoi ces putains de cadres de portes sciées ?
Murmure Peter. Le treuil, répond Jonah. Le meurtrier a tiré sur le câble, puis a sorti le corps à l'aide d'un treuil en passant par les portes. Quelqu'un y comprend quelque chose ? Demande Manvir.
Qu'est-ce qu'il veut, en fait ?
Il s'agit à présent de trois collègues, dont deux gradés.
Et d'un vieux prêtre, marmonne Saga.
Juna dépasse Saga, se rabat devant elle et la dirige vers l'autoroute E4 en direction d'Uppsala.
Je pense qu'il choisit la victime pour qu'on s'implique, réfléchit Saga. Il n'y a peut-être pas d'autre motif que celui-là. Il veut nous faire comprendre qu'il va tuer Juna si je ne parviens pas à l'arrêter.
Tu as sans doute raison, répond l'intéressé d'une voix à peine audible.
Que disait la carte postale ?
Celui qui ne résoudra pas l'énigme sera jugé par les morts, récite Juna. C'est donc à nous qu'incombe la responsabilité de l'arrêter.
À moi,
dit Saga. Je vais appeler le service de protection et m'assurer que Juna en bénéficie.
Non, dit-il.
Là, c'est du sérieux.
S'il vient, je suis prêt.
Quel héros !
Ironise Peter.
Je suis prêt. C'est juste ça que je dis.
Ok, on reparle de ça plus tard. Intervient Manvir. Toi et Saga, vous êtes en route pour Salzjöbaden ?
Non, c'est ce que...
Ah, je pensais !
C'est ce que veut le prédateur. Poursuit Juna. Mais là-bas, on ne pourra rien faire. On file au cimetière indiqué sur la carte postale.
Saga, j'insiste de nouveau sur le fait que tu n'es pas en service opérationnel, dit Manvir. Si tu restes avec Juna, tu es là en tant qu'observatrice. Mais tu ne peux rien faire de plus.
Ok, merci.
Saga suit Juna, qui dépasse plusieurs bus de ville avant de se rabattre sur la voie de droite. Sa veste en cuir lui comprime les épaules et les omoplates. Il est presque 10 heures ce mardi matin. Les nuages se déplacent lentement au-dessus des champs, comme des baleines dans les profondeurs de la mer. Saga lui a raconté qu'elle frissonnait chaque fois qu'elle passait devant l'hôpital Löwenströmska. Lui-même, en ce moment, sent monter une vague d'angoisse qui prend sa source dans les ténèbres. Un mur anti-bruit rouge vif défile sur la gauche. Les lignes électriques entre les hauts poteaux brillent d'un éclat argenté. Un poids lourd, chargé à bloc, soulève un nuage de poussière sur le bas-côté de la route. Jonas se dit que le tueur contrôle chacun de leurs mouvements. Pour l'instant, ils ne font que lui obéir aveuglément. Il sait qu'ils se rendront au bain de Salzjöbaden et au cimetière. Cela ne leur permettra pas de réduire son avance, bien au contraire. Il quitte l'autoroute au nord de la petite ville de Danemark au niveau d'une grande zone industrielle délimitée par de hautes clôtures. La route 282 les conduit au cœur des terres fertiles de la plaine d'Uppsala. Ils traversent des champs et des forêts, passent devant une scierie et des maisons rouges. Le clocher de la petite église blanche du XIe siècle apparaît entre les arbres lorsqu'il bifurque vers Funbo. Juna se gare derrière Saga et sort de la voiture. Le portail est le même que sur la carte postale. Mais l'ancienne clôture en fer a été remplacée par un muret en pierre. Ils avancent d'un pas vif sur le chemin de gravier, passent devant la pierre runique avant de se séparer et de continuer dans des directions opposées. Des haies de buis taillés séparent les rangées de pierres tombales et de croix. Il n'y a personne en vue, et le parking est vide. Juna et Saga nourrissent encore l'espoir de sauver la vie de Werner s'il a été déposé dans le cimetière. Plusieurs pigeons s'envolent lorsque Saga disparaît derrière la sacristie. Juna continue vers les buissons denses qui bordent le muret. Une forme, au contour bleu brillant, émerge entre les branches. Il se précipite et comprend qu'il s'agit d'un sac de terre végétale. Des coups sourds résonnent derrière un bâtiment de stockage, comme si quelqu'un était en train d'aplatir la terre avec ses mains au-dessus d'une tombe comblée. Juna se relève, fait quelques pas sur le côté et repère à l'extrémité du cimetière un grand sac blanc en suspension à 1 mètre du sol, au milieu des bosquets de chênes. Il se met à courir et voit Saga arriver à toute allure de l'autre côté. Le sac est enroulé dans des lanières de tissu et du ruban adhésif. Plusieurs cordes entrecroisées courent sur les branches et les troncs des chênes. On ne perçoit aucun mouvement, ni aucun bruit. Saga contacte le central, tandis que Juna sort son poignard et commence à couper les cordes. Au fur et à mesure qu'elles rompent, le sac descend de plusieurs centimètres. On entend des oiseaux chanter depuis la cime des arbres. Le sac se balance maintenant au bout d'une unique corde reliée à une grosse branche et enroulée autour du tronc. Saga essaie de le soutenir tandis que Juna détache soigneusement le lien avant de le lâcher. Le sac atterrit lentement dans l'herbe. Les cloches de l'église se mettent à sonner. Juna, penchée au-dessus du sac, découpe avec précaution le tissu et les couches de ruban adhésif. Une odeur chimique âcre leur fait aussitôt monter les larmes aux yeux. Le corps baigne dans une bouillie mousseuse. Certains membres sont gélatineux et presque transparents. Bien que les cheveux et les traits du visage aient disparu, il est évident qu'il s'agit du corps de l'officier de police, Simon Pierque.